Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Liberté et la conversation. Au programme, mon autodévoilement. Un autre marqueur des inégalités de genre, l'humour des femmes au travail et exfoliation de la peau, tout ce qu'il faut savoir. Bonne écoute.
Mon auto-dévoilement. Un texte de Jean-Sébastien Fallu, paru à l'automne 2022 dans la revue Liberté. Tandis que les experts discutent du sort des personnes utilisatrices de drogue, comme si elles n'étaient pas dans la salle, d'autres voix nous invitent à faire notre coming out. Nous sommes le 24 octobre 2019. J'assiste depuis 2 jours, en compagnie de près de 200 intervenants et intervenantes du réseau communautaire québécois en dépendance, à la première édition du colloque du réseau en dépendance et usage de substances, CREDUS, où je suis invité à prononcer la conférence de clôture. Je n'avais pas encore pris la décision de me dévoiler, mais je l'envisageais. Pendant le colloque, j'écoute, je réfléchis. Je tâche de m'inspirer de ce que j'entends pour que ma conférence soit ancrée. Et c'est là qu'une conclusion évidente m'apparaît. Si dans les politiques publiques, on soulève à peine les causes, à la fois sociales et individuelles, de l'usage de drogue et de la dépendance, si la crise des surdoses n'est pas dans la mire des élus, en dépit d'innombrables morts qui pourraient être évitées, et si très peu de ressources et de solutions sont mises à la disposition de la population, c'est principalement en raison d'une chose, la stigmatisation. Sachant qu'elle a plusieurs sources qui s'entremêlent et s'alimentent les unes les autres, notamment les lois et les politiques sur les drogues, l'éducation et la façon dont on aborde ce sujet, une en particulier et qui est commune à d'autres caractéristiques sociales qui font l'objet de stigmatisation, m'apparaissait fondamentale. Les représentations sociales des personnes utilisatrices de drogue. Que ce soit dans la sphère médiatique, cinématographique, politique, médicale, voire scientifique, ces représentations relèvent du même cliché. L'individu défavorisé, malmené par la vie, immoral, englouti dans l'enfer de la drogue. Or, dans toutes les couches de la société, on consomme des drogues. Des juges, des avocats, des avocates, des policiers, des policières, des politiciens, des politiciennes, des médecins, des journalistes, des comptables, des psychologues prennent de la drogue. Sauf, en de très rares exceptions, aucune de ces personnes ne le révèle, étant donné leur appartenance à une profession reconnue et les conséquences dramatiques que cela pourrait avoir dans leur vie. Mais cela participe à une perception sociale biaisée et hypocrite du drogué, qui renforce la conception que nous entretenons des personnes qui consomment, perception qui nous renvoie au cliché du déchet social. C'est dans ce contexte que j'ai décidé, malgré des années d'évitement et d'enfermement, de doutes et de craintes, d'user de mes privilèges de professeur d'université blanc et cis pour faire le saut et me dévoiler. Il fallait que je le fasse, c'était devenu plus fort que moi, en toute fin de conférence, obtempérant ainsi à l'injonction de nul autre que Karl Hart, j'allais limiter à ma petite échelle. Quelques mois plus tôt, en avril 2019, j'assistais à l'allocution de clôture de la conférence internationale sur la réduction des méfaits à Porto, une rencontre biennale qui regroupe des universitaires, des praticiens, praticiennes et des militants, militantes de tous les coins du globe, du Nord et du Sud, qui s'intéressent à la réduction des méfaits dans l'usage des drogues. Cette dernière allocution était prononcée par Karl Hart, qui a entre autres écrit l'excellent ouvrage « Drug Use for Grown-Ups, Chasing Liberty in the Land of Fear ». Après nous avoir livré un vibrant plaidoyer alternant humour et récit dramatique, il y est allé d'une affirmation qui m'a fortement interpellé. « Sortez du placard », a-t-il clamé avec conviction, je traduis. Il faut dire qu'il prêche par l'exemple, ce Hart, puisqu'il a révélé au grand jour sa consommation d'héroïne. Cette injonction a résonné en moi. Elle m'a fait réfléchir. Mais je n'étais pas prêt à passer à l'acte, à prendre ce risque. Au Crédus, tout est devenu clair. Je me suis senti investi d'une mission, celle d'user de ma notoriété et de mon influence pour suivre les traces de Hart et participer un peu à provoquer un changement, ou du moins la réflexion. Si 200 intervenants intervenantes en dépendance n'étaient pas à même de comprendre et de respecter ce choix de la consommation, si nous nous stigmatisions entre nous, la route vers le changement allait être longue. J'ai fait le grand saut en insistant sur le fait qu'au fond, nous sommes à peu près tous drogués, si on inclut l'alcool et les médicaments psychoactifs. Je ne dévoilais rien de bien fracassant quand on y pense avec un minimum de sincérité. À ma grande surprise, j'ai reçu une vibrante ovation et plusieurs témoignages très touchants par la suite. De retour chez moi, j'ai décidé de faire ce coming out sur Facebook et Twitter, suscitant des centaines de réactions toutes plus positives les unes que les autres. Je pouvais enfin cesser de me cacher. Continuons la lecture de « Mon autodévoilement », un texte de Jean-Sébastien Fallu paru à l'automne 2022 dans la revue Liberté. Des juges, des avocats, avocates, des policiers, policières, des politiciens, politiciennes, des médecins, des journalistes, des comptables, des psychologues prennent de la drogue. Sauf en de très rares exceptions, personne ne le révèle. J'ai agi dans un contexte où je saisissais à quel point la stigmatisation des personnes utilisatrices de drogue est nocive et combien ces effets délétères sont en large partie responsables des troubles de l'usage que l'on diagnostique. Les personnes les moins privilégiées sont, de manière disproportionnée, victimes de cette stigmatisation. Ma situation privilégiée m'a poussé à agir, évidemment. Je connaissais les risques de ce dévoilement, mais au stade où j'en étais dans ma carrière de chercheur bien établi, j'ai jugé que les bénéfices étaient plus grands, notamment à l'égard de ma propre intégrité. J'ai enfin mis un terme à un tiraillement intérieur qui durait depuis plusieurs années. Ce fut le début d'un processus pour mener ma vie avec une plus grande authenticité. J'ai longtemps caché ma consommation de drogue depuis mon adolescence en vérité parce que je craignais les conséquences négatives de la stigmatisation sur ma carrière et mes relations. Étant donné les injustices épistémiques que cette stigmatisation engendre, j'ai décidé de prendre le risque tangible de me révéler en espérant que cela permette de transformer la perception que l'on a des usagers de drogue qui rassemble une panoplie de gens dont des professeurs d'université. Mon dévoilement s'inscrit aussi dans un contexte où il est de plus en plus admis qu'il faille inclure des personnes concernées dans les projets de recherche et les conférences. D'ailleurs, la drogue est mon objet d'étude, l'étiologie et la prévention ainsi que les politiques en matière d'usage de substances. Une collègue française m'a dit qu'on me reprocherait ma consommation dans sa société, que je perdrais de la crédibilité en tant que chercheur. C'est un faux débat. Nombre de chercheurs-chercheuses ont une grande proximité avec leur objet de recherche. Ce n'est donc pas la proximité que l'on entretient avec son objet de recherche qui dérange, mais la nature de l'objet étudié. C'est cette catégorisation, cette mise en boîte et cette absence de nuance dans la vision que nous entretenons face à la drogue qui m'ont poussé à me dévoiler pour sortir de cette conception dichotomique où des chercheurs-chercheuses ne consomment pas et des consommateurs-consommatrices ne participent pas à la recherche. S'il est vrai que je n'ai pas reçu de diagnostic de trouble de l'usage, je me revendique comme personne concernée dès lors qu'il s'agit de consommation de drogue. Cela dit, j'ai conscience que ma posture est moins risquée et moins stigmatisée que celle de la personne aux prises avec un trouble, qui peut vivre en marge de la société. Depuis, je ne me gêne plus pour me présenter comme personne utilisatrice de drogue, que ce soit au travail ou dans les médias. Et comme un dévoilement en entraîne souvent d'autres, j'en profite pour dire que je suis aussi un ex-travailleur du sexe et qu'il est grand temps que nous élargissions les enjeux EDI, équité, diversité, inclusion, à d'autres personnes et sous-populations sans sombrer dans le vain exercice de hiérarchiser les souffrances et les oppressions. Il est grand temps que nous fassions un examen de conscience et soyons inclusifs dans nos revendications. En effet, les personnes travailleuses du sexe non monogame, aux pratiques sexuelles minoritaires et utilisatrices de drogue, sont souvent exclues de nos réflexions EDI. Tout cela me mène, pour finir, à parler d'autres sources de stigmatisation qui doivent aussi être abordées si on veut en finir avec l'exclusion des personnes qui consomment. D'abord, le langage, qui doit être axé sur la personne. Par exemple, on dit « une personne utilisatrice de drogue » et non « un consommateur, une consommatrice de drogue ». On évitera le vocabulaire stigmatisant comme « drogué », junkie, etc., et on utilisera des mots médicalement exacts. J'entends trop souvent des médecins affirmer sans broncher que les adolescents-adolescentes qui consomment du cannabis sont à risque élevé de psychose, alors qu'ils sont à risque plus élevé, ce qui est très différent. Idéalement, on saura témoigner de la bienveillance plutôt que du jugement. Je n'entrerai pas ici en profondeur, et ce n'est pas l'objet de ce texte, dans les questions de loi et de politique. La tendance de fond consiste à encadrer la consommation de substances comme un problème de santé. Mais bon Dieu, nous ne sommes pas des criminels ni des malades. Je ne nie pas que la consommation puisse poser des risques. Il est cependant contre-productif de punir une personne qui a possiblement besoin d'aide. Il ne s'agit pas non plus de verser dans l'autre extrême, en valorisant la consommation comme moyen d'adaptation à un mode de vie capitaliste et productiviste, ou encore en réprouvant l'abstinence. Il n'y aura toutefois pas de déstigmatisation sans normalisation, et pas de normalisation sans loi et politique inclusive qui ne punissent pas, qui ne pathologisent ni ne médicalisent. La prohibition, ne l'oublions pas, relève en grande partie de facteurs culturels. La décriminalisation n'est pas une panacée, nous dit Justin Trudeau, mais l'inaction est bien plus dangereuse. La décriminalisation peut être réalisée en respectant l'autodétermination des personnes qui consomment sans leur imposer de sanctions ou un traitement obligatoire. Elle peut ainsi contribuer dès maintenant à réduire le danger pour la vie des utilisateurs-utilisatrices, les effets pervers engendrés par la criminalisation, la stigmatisation et le manque d'éducation autour des drogues. Il va sans dire que je n'aspire pas à la glorification de la drogue, mais à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. C'était mon autodévoilement, un texte de Jean-Sébastien Fallu paru à l'automne 2022 dans la revue Liberté.
Un autre marqueur des inégalités de genre, l'humour des femmes au travail. Un texte de Pénélope Codello, paru le 13 décembre 2022 dans le magazine La Conversation. L'humour est présent dans toutes les sphères de la société. Le milieu du travail n'y échappe bien sûr pas. Son usage y est cependant un marqueur social et de genre très puissant. La revue de la littérature montre que les femmes subissent, dans ce domaine comme dans bien d'autres, un double standard. Ce qui est perçu comme valorisant pour un homme est parfois perçu comme dévalorisant pour une femme. Afin d'analyser comment les femmes dirigeantes utilisent l'humour sur leur lieu de travail, j'ai réalisé avec ma collègue Catherine Patry 13 entretiens approfondis avec des femmes dirigeantes. Professeure au département de management, je m'intéresse aux questions de leadership et de diversité. Nos résultats publiés dans la revue Communication et Management montrent la diversité des usages de l'humour par les femmes dirigeantes sur leur lieu de travail. Certaines se l'interdisent strictement. La plupart l'utilisent en étant extrêmement attentives à la situation dans laquelle elles se trouvent. Toutefois, quelques-unes affirment l'utiliser volontiers. Ces résultats permettent d'identifier les conditions qui rendent possible l'usage de l'humour par les femmes dirigeantes sur leur lieu de travail. La littérature a identifié depuis longtemps des bénéfices à l'usage de l'humour en organisation. L'humour peut faciliter la gestion du changement, améliorer le bien-être au travail, la rétention des employés, ainsi qu'entretenir la cohésion de groupe. Il peut aussi faciliter l'apprentissage et la créativité. Fait intéressant, l'humour peut être un bon outil pour réduire la distance hiérarchique et atténuer l'ennui. Les cinq types d'humour au travail. Pour autant, nous ne faisons pas toutes et tous usage de l'humour de la même manière. Des recherches ont permis d'observer que les hommes et les femmes n'utilisent pas tous les cinq styles d'humour identifiés par Eric Romero et Kevin Crutards en 2006. L'humour n'est pas non plus perçu de la même manière selon le genre. L'humour affiliatif permet de créer la cohésion de groupe en facilitant les relations sociales et en créant un environnement de travail positif. Aucune surprise, cet humour est souvent associé et utilisé par les femmes car il renvoie à leurs caractéristiques stéréotypées comme le care, le soutien, l'inclusion et la coopération. L'humour d'autopromotion est autocentré et vise à améliorer sa propre image. Il est davantage associé aux hommes. L'humour agressif vise la domination, la victimisation, l'intimidation et le dénigrement. Les chercheurs ont observé que les hommes utilisent également davantage ce type d'humour, et ce, quelles que soient leurs origines culturelles, renforçant ainsi un stéréotype de genre. L'humour semi-agressif, version sarcastique moins violente que la précédente, est une stratégie de contournement pour exprimer un désaccord, des messages déplaisants. Ces stratégies sont souvent associées aux stéréotypes masculins. L'autodérision est un style d'humour qui crée des émotions positives tout en s'efforçant d'obtenir l'assentiment des autres. Dans les organisations, ce style d'humour est utilisé pour réduire l'écart hiérarchique et améliorer la perception d'accessibilité. Femmes et hommes sont coutumiers de ce type d'humour, mais avec des conséquences différentes pour les unes, négatives, et les autres, positives. Il n'y aurait donc pas que des bénéfices à l'usage de l'humour en organisation. Certains dirigeants l'utilisent pour rappeler leur rang et leur pouvoir aux autres. Il est aussi un révélateur des ambiguïtés et des tensions de la culture organisationnelle. Par exemple, trop d'humour agressif ou semi-agressif peut même indiquer que des infractions à l'éthique sont acceptables. L'usage de l'humour, un révélateur des inégalités de genre. Dès 2004, il a été mis en lumière le fait que l'humour en tant que marqueur des relations de pouvoir dans l'entreprise renforce d'autant plus les inégalités entre les hommes et les femmes. En effet, par le phénomène d'internalisation des normes sociales de genre, les femmes ont très vite compris qu'elles n'auraient pas intérêt à user de l'humour agressif. En effet, le risque de décrédibilisation serait trop important pour elles, car l'agressivité n'est pas une variable du stéréotype féminin. Plus encore, ces travaux indiquent même très clairement que l'humour agit comme marqueur social inversé chez les femmes. Un homme drôle a plus de probabilité d'avoir un statut supérieur à un homme pas drôle. Une femme drôle a plus de probabilité d'avoir un statut inférieur à une femme pas drôle. De même, une femme qui utilise l'humour d'autopromotion ne donnera pas une bonne image d'elle-même, contrairement à un homme qui peut en user, voire en abuser. Le double standard plane toujours au-dessus de sa tête. Voici un des témoignages que nous avons reçus dans le cadre de l'une de nos entrevues. « Je suis une femme et je suis jeune. Déjà là, il y a un biais. Les gens sont à la banque depuis très longtemps et ont fait le tour de plusieurs divisions. Ça fait seulement 2 ans que je suis là. Si j'utilise l'humour, je me décrédibilise. » Ajoutez à cette réflexion tous les enjeux liés à l'intersectionnalité et vous pourrez par vous-même envisager, par exemple, quelles seraient les conséquences pour un homme issu des minorités visibles de faire usage d'humour agressif auprès d'un homme blanc. Envisagez aussi le cas d'une femme issue des minorités visibles, une femme LGBTQ+, etc. Et alors, on fait quoi? Ainsi, les femmes font face à deux options lorsqu'il est question de faire usage de l'humour en milieu de travail. 1. Respecter l'ordre social genré et tenir compte des impacts négatifs et des risques d'utiliser une autre forme d'humour que l'humour affiliatif. Si vous êtes dans une organisation conservatrice, ce conseil s'applique d'autant plus, car les risques sont majeurs de renforcer le plafond de verre de votre carrière. 2. Déranger l'ordre social en utilisant progressivement plus d'humour dans vos relations, notamment l'humour d'autopromotion. Bon moyen de guérir votre syndrome de l'imposteuse, et pourquoi pas, l'humour agressif en réponse à celui de votre collègue qui essaie de vous rabaisser et ainsi tenter de rétablir une forme d'égalité. Il faut bien sûr, dans ce cas, pouvoir assumer une mauvaise réputation que peu d'hommes n'auront à subir à comportement agressif parfois supérieur. La question de l'humour cristallise les enjeux liés aux inégalités de genre dans les organisations. Toutefois, le déploiement des politiques d'équité, diversité et inclusion, EDI, laisse penser que les équilibres vont progressivement changer et que l'utilisation de l'humour, comme bien d'autres choses, sera bouleversée par une meilleure égalité homme-femme. C'était un autre marqueur des inégalités de genre, l'humour des femmes au travail, un texte de Penelope Codello, paru le 13 décembre 2022, dans le magazine La Conversation.
Exfoliation de la peau, tout ce qu'il faut savoir. Un texte de Marie-Ève Inoux, paru le 24 août 2022 dans le magazine Coup de pouce. Les tablettes de certains commerces débordent de produits servant à exfolier notre peau. À quel point ce geste est-il nécessaire ou même bénéfique? Qu'est-ce que l'exfoliation et quels sont ses bienfaits? Il s'agit d'un geste beauté qui nous permet de retirer les cellules mortes à la surface de notre peau, bien que l'exfoliation ne soit pas une étape essentielle de la routine de soins. Elle peut se révéler bénéfique dans certains cas. Lorsque faite adéquatement, elle dévoile une nouvelle couche de peau douce, lisse et éclatante, au teint et à la texture particulièrement uniforme. L'exfoliation permet aussi une meilleure pénétration des produits de soins utilisés par la suite. Mais si on l'effectue trop souvent ou trop rapidement, l'exfoliation peut aggraver certaines affections cutanées comme l'acné ou provoquer de l'inflammation, des cicatrices ou même de l'infection. L'important et de rester à l'écoute de notre peau. Quels sont les différents types d'exfoliation? Il y en a deux principaux, l'exfoliation mécanique, parfois appelée physique, et l'exfoliation chimique. L'exfoliation mécanique consiste à retirer les cellules mortes à la surface de notre peau en la massant doucement avec un soin qui contient des granules. Les gommages, les désincrustants et les brosses nettoyantes, entre autres, sont employés dans une exfoliation physique. L'exfoliation chimique se fait en appliquant un soin dont un ou plusieurs ingrédients accélèrent le renouvellement cellulaire et brisent les liens entre les cellules mortes à la surface de la peau, leur permettant de s'éliminer. Parmi les plus communs, il y a les acides comme les AHA, acides alpha-hydroxylés, et les BHA, acides bêta-hydroxylés, ainsi que les enzymes de fruits. Les produits qui en contiennent prennent plusieurs formes, des lotions toniques aux hydratants, en passant par les sérums et les masques. Certains soins offrent à la fois une exfoliation mécanique et chimique. Comment intégrer l'exfoliation à notre rituel beauté? On choisit un exfoliant qui convient à notre type de peau qu'on utilise quelques fois par mois. On augmente ensuite la fréquence peu à peu. On pense aussi à limiter les autres produits au potentiel irritant dans notre routine de soins comme le rétinol ou la vitamine C concentrée. Si on a la peau normale, sèche ou mixte, on essaie un produit comportant des AHA. Si on a la peau grasse, les BHA sont plus indiqués, car ils sont liposolubles, ils pénètrent l'huile. On peut aussi essayer un gommage ou un soin qui combine l'exfoliation physique et chimique. Si on a la peau sensible, il n'est peut-être pas nécessaire de l'exfolier. Si on y tient, on se tourne vers les PHA, acide polyhydroxylé, ou l'acide lactique ou mandélique, dont les molécules sont plus grosses et pénètrent moins profondément dans la peau, ce qui les rend moins irritants. On peut exfolier notre corps d'une fois par mois à deux fois par semaine. Tout dépend de nos objectifs et de la tolérance de notre peau. Gare à la surexfoliation. Si on remarque des rougeurs, de la sécheresse, une sensation de picotement ou de la desquamation visible sur notre peau, c'est peut-être signe qu'on l'a exfolié de manière trop intense ou trop fréquente. On cesse alors immédiatement et on réduit notre routine de soins à l'essentiel. Un nettoyant doux, un hydratant de base, comme de la gelée de pétrole, et un écran solaire. L'important est de laisser le temps à notre peau de se rétablir, ce qui peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines. Truc de pro. Après avoir exfolié notre peau, on n'oublie pas d'appliquer un hydratant doux ainsi qu'une lotion offrant un FPS 30, car l'exfoliation peut assécher la peau et la rendre plus sensible au soleil. Dr Annie Liu, dermatologue certifiée. C'était « Exfoliation de la peau, tout ce qu'il faut savoir », un texte de Marie-Ève Inoux, paru le 24 août 2022 dans le magazine Coup de pouce.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Luc Mercure à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.